Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Vous avez senti le poids de ces paroles? C'est un poids magistral, parce qu'en fait c'est un poids qui n'est pas simplement l'énoncé de ce qu'est Dieu, mais c'est un poids qui construit notre existence. Et c'est ça la bonne nouvelle, de vivre une louange comme celle-là. Merci mes amis de la louange. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Ou comme le disait un de mes professeurs, où cours-je? Alors qui sommes-nous? Qui suis-je? C'est une question fondamentale. Et il y a tellement de réponses à cette question. Il y a tellement de réponses véhiculées par tous les courants de pensée que nous côtoyons. Il y a tellement de réponses véhiculées par les médias que nous voyons autour de nous. Des courants de réponses très divers. C'est que c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est fondamental. Parce que nous avons bien découvert que nous ne sommes pas simplement un corps, nous ne sommes pas simplement des instincts, des pulsions, mais il y a autre chose qui nous oriente et qui nous détermine. Alors je vais laisser Nicolas Michel, s'approcher pour partager avec nous la réponse qu'il a trouvée dans les Écritures. Seigneur, merci du travail que Nicolas a consacré pour pouvoir fouiller cette question délicate. Merci de l'inspirer dans les paroles qu'il va nous apporter, de l'habiter de ta présence et d'ouvrir nos cœurs afin que nos oreilles intérieures entendent ce que tu veux nous dire. Amen.
Merci. Alors, bonjour à tous. Alors on continue aujourd'hui notre série qui étudie le livre de l'Exode avec cette question justement, qui on est, nous qui faisons partie du peuple de Dieu? Qu'est-ce qui nous caractérise? Quelle est notre mission? Alors dans Exode 19, le peuple a quitté l'Égypte, il a été libéré de l'Égypte par Dieu. Et il se retrouve face à cette montagne fumante qui est habitée par la présence de Dieu. Je vais vous lire maintenant le texte en sautant certains versets puisque le chapitre serait trop long autrement à lire. Exode 19. Le troisième mois, à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit : Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Alors Moïse va communiquer ceci au peuple et il remonte. Le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-le. » Aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant, gardez-vous de monter dans la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Le troisième jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, avec un fort son de trompe. Tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent debout au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée montait comme celle d'un fourneau, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompe se faisait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait. Et ainsi le Seigneur descendit sur la montagne du Sinaï, il vint au sommet de la montagne. Alors je vais vous demander maintenant un petit effort d'imagination. Imaginez que vous êtes esclave en Égypte. Vous êtes asservi à un dur travail sous le soleil tapant et tout votre travail est dédié à glorifier le pharaon mégalomane qui vous a servi. Vous ou un de vos proches avez été fouetté ou frappé dernièrement par les chefs de corvée. Peut-être qu'un de vos enfants ou celui d'un proche est mort noyé dans le Nil. Puis un jour, après que 9 plaies aient déjà frappé l'Égypte, la 10e arrive, le jugement de Dieu tombe sur l'Égypte et ses dieux. Il frappe toutes les familles d'Égypte, sauf celle de votre peuple. Car le sang de l'agneau a permis que le jugement passe par-dessus vous. Vous pouvez enfin sortir de cet enfer. Mais certains se disent, « Ouf, c'est bon, on a échappé au jugement de Dieu. Restons maintenant esclaves de l'Égypte, parce que finalement, c'est ça notre condition. » D'autres quittent l'Égypte, ne veulent plus de cet esclavage. Et Dieu les libère en les faisant passer au travers de la mer Rouge. Mais une fois arrivés de l'autre côté, ils se disent que finalement, la plage de la mer Rouge, c'est pas si mal. C'est un peu désertique, c'est vrai. Mais bon, on a échappé au jugement de Dieu, on a été libéré de l'esclavage des Égyptiens, et il reste là à vivre dans le désert. Les premiers, c'est nous lorsque notre vie de foi est entièrement tournée vers le futur. La foi, dans ce cas, c'est un passeport pour le ciel. Elle ne change rien ici et maintenant. Je reste esclave du péché. Et Dieu reste lointain pour moi. Les deuxièmes, c'est nous lorsque notre vie de foi a eu un impact sur notre présent. Nous avons la conviction d'être sauvés du jugement de Dieu. Nous avons expérimenté une libération de l'esclavage du péché. Mais on ne peut pas dire que nous avons vraiment fait alliance avec Dieu, dans le sens que notre foi ne nous engage pas envers lui. Et deuxièmement, nous ne goûtons pas à sa présence dans le quotidien, sa présence aimante et sa puissance. Jusqu'ici, nous avons vu dans le livre de l'Exode une première facette de ce que cela veut dire d'être le peuple de Dieu. C'est être un peuple libéré. À l'image de ce qui s'est passé en Égypte, nous qui faisons partie de ce peuple, nous sommes, comme eux, protégés du jugement, par le sang de l'agneau, le sang de Christ. Nous avons aussi été libérés de l'esclavage au travers des eaux du baptême qui représentent la mort de Christ. Mais le livre de l'Exode ne nous dit pas que le peuple en est resté là. Le livre de l'Exode nous dit qu'il y a plus que ça, que ce n'est qu'un début. Nous sommes libérés, oui, mais dans quel but ? Pourquoi ? Et la réponse que nous y trouvons, c'est que notre libération, c'est la condition de départ, c'est la condition nécessaire pour ce qu'être le peuple de Dieu signifie vraiment. Entrer en alliance avec Dieu pour recevoir et rayonner sa présence. Ce sont en effet les trois étapes clés que l'on voit dans le livre de l'Exode. Les chapitres 1 à 18, Dieu libère son peuple en jugeant l'Égypte. Dans notre passage, Dieu fait référence à ça. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Les chapitres 19 à 24, Dieu entre en alliance avec son peuple. Dans notre passage, d'ailleurs, Dieu dit « Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. » Et puis, tous les chapitres qui y restent se consacrent à comment est-ce que le peuple va pouvoir garder cette présence terrifiante, menaçante en son sein, une fois que l'alliance est scellée. De notre passage, nous voyons cette présence terrifiante. Et nous imaginons bien que quelque chose va devoir être mis en place pour que ce ne soit pas une menace permanente pour le peuple. Puis il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé dans ce graphique, c'est la flèche elle-même. Être libéré, entrer en alliance, recevoir cette présence, c'est ça qui nous constitue comme le peuple de Dieu. Et une fois qu'on est le peuple de Dieu, on entre dans une dynamique. On entre dans un mouvement, dans un appel. Et cet appel, on le voit déjà lorsque Dieu appelle Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham et lui dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Donc l'appel du peuple de Dieu va au-delà que le peuple lui-même. Il a un but qui le dépasse. Dans l'alliance du Sinaï, Dieu spécifie qu'est-ce que ça veut dire d'être une bénédiction pour les nations, maintenant qu'ils vont recevoir cette présence permanente en leur sein. Il leur dit, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » En effet, la descente de Dieu parmi son peuple implique que sa mission, c'est d'être intermédiaire entre la présence de Dieu et le reste de l'humanité. Autrement dit, d'être prêtre pour le monde. Ça veut dire qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord? Pensez maintenant à Stendhal qui écrit « Le rouge et le noir ». Alors, j'ai choisi ce livre en pensant en particulier à une personne dans cette salle, mais... Prenez n'importe quel livre que vous aimez bien. Dans son roman, Stendhal crée tout un monde imaginaire. Et on peut dire que Stendhal, il est présent dans chaque détail de ce monde, puisque c'est lui qui l'imagine, c'est lui qui décide ce qui s'y passe, c'est lui qui en conduit la trame. C'est ça qu'on peut appeler la... Il est très enthousiaste aujourd'hui. Cette présence-là, de Stendhal, qui est présent partout dans le monde qu'il crée, c'est ce qu'on peut appeler, là je vais faire une petite distinction théologique pour essayer de vous expliquer un peu mieux de quoi il retourne quand je parle de la présence de Dieu. Stendhal, qui est présent partout dans le monde qu'il a créé, ça, c'est ce qu'on peut appeler la présence transcendante de Dieu dans sa création. Dieu a créé, il soutient l'existence, il connaît chaque nanomètre cube de la création. Dans ce sens, on peut dire que Dieu est partout. Maintenant, imaginez quelque chose de très difficile à imaginer. Imaginez que Stendhal entre personnellement dans le monde imaginaire qu'il a créé. Le fait que le Créateur entre dans sa création est aussi fou que d'imaginer que Stendhal entre dans le monde imaginaire qu'il décrit dans son livre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la présence immanente de Dieu. C'est de cette présence-là que nous parlons aujourd'hui. C'est celle que les Israélites appellent le Ruach, l'Esprit de Dieu. C'est celle que les Israélites appellent le Panim, la face de Dieu. C'est celle que les Israélites appellent le Kavod, la gloire de Dieu. Alors voyons maintenant comment cette présence a évolué au cours du temps et l'impact que cela a eu sur la mission de l'humanité et du peuple de Dieu. Commençons par la création. Lorsque Dieu a créé le monde, il aurait très bien pu décider de rester transcendant. Il conduit tout, il est souverain, mais il ne rentre pas à l'intérieur. Pourtant, c'est ce qu'il a décidé de faire. On voit l'esprit qui plane au-dessus des eaux. On apprend que Dieu marche dans le jardin. Il est présent de manière immanente. Et cette présence, lors de la création, elle est complètement ouverte. Il n'y a rien qui fait écran entre l'homme et cette présence. À ce moment-là, le récit de la Genèse nous dit que l'appel de l'humanité, c'est de régner sur la création avec Dieu. Alors maintenant, à la chute, cette présence immanente de Dieu, elle se retire de la création matérielle pour ne résider plus que dans la création immatérielle. C'est-à-dire, elle se retire de la terre pour ne résider plus que dans le ciel. C'est comme ça que la Bible décrit l'exil de l'humanité. C'est qu'on a perdu cette présence immanente de Dieu. Ce que nous observons maintenant au Sinaï, c'est qu'il y a une nouvelle descente, une nouvelle entrée de Dieu dans sa création. Mais cette fois, c'est à l'intérieur d'un peuple particulier. Cette présence, elle nécessite un écran, parce que le monde est marqué par la chute et Dieu est trois fois saint. Il y a une incompatibilité entre le péché et la sainteté de Dieu. S'il n'y a pas d'écran, cette présence va dévorer le monde, va l'annihiler. Et ce que nous voyons dans le livre de l'Exode, c'est que ce qui va protéger ou faire écran, c'est le tabernacle. Plus tard, ça va devenir le temple. Quel est le rôle maintenant du peuple de Dieu? C'est d'être prêtre de cette présence pour le reste des peuples. Mais entre deux, il y a un nouvel exil qui apparaît. Israël fait n'importe quoi et finit par être amené en exil. Ézéchiel décrit qu'avant la prise de Babylone, la gloire de Dieu sort du temple et s'en va. Pourtant, Dieu revient une nouvelle fois dans notre monde. Cette présence qui revient dans notre monde, elle revient aussi sous un écran, parce qu'elle est trop menaçante. Et cette fois, l'écran, c'est le tabernacle de l'humanité de Christ. Après l'ascension de Jésus, la présence de Dieu continue d'être sur terre à l'intérieur de l'Église qui est décrite comme le temple du Saint-Esprit. Et de nouveau, le Nouveau Testament décrit quel est notre rôle dans ce monde, c'est d'être prêtre. Et finalement, il y a une dernière descente de Dieu dans le monde qui est décrite par la Bible dans l'Apocalypse, tout à la fin de l'Apocalypse. Dans les chapitres de l'Apocalypse jusqu'à 20, le rôle du peuple de Dieu, c'est d'être prêtre. Et tout à la fin, Dieu amène la nouvelle création. Il y a la présence ouverte de nouveau de la Trinité divine dans le monde qui est là. Et on revient, l'Apocalypse revient alors au rôle initial de l'humanité qui est de régner sur la création. Ainsi, dans l'Ancienne Alliance, comme dans la Nouvelle, une manière de comprendre notre rôle dans ce monde, c'est d'être intermédiaire de la présence de Dieu pour le monde. Autrement dit, d'être prêtre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu dit qu'on doit être prêtre pour le monde, il fait une analogie. Il dit, vous savez qu'est-ce que font les prêtres pour vous, à l'intérieur du peuple? Ben maintenant, vous tous, vous allez jouer le même rôle pour les nations qui sont à l'extérieur. Donc, si on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être prêtre pour le monde, on doit chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être prêtre à l'intérieur du peuple. Alors, dans l'Ancien Testament, le prêtre, il est consacré au moyen d'une onction d'huile et de l'aspersion du sang, et il est dit qu'il est rendu saint. C'est ce qui lui permet de s'approcher de la présence de Dieu sans risquer de mourir, nous dit l'Exode. C'est pour ça ici, vous voyez, j'ai mis cette partie-là, moitié orange, moitié bleu, pour montrer qu'il y a un peu un mélange de la condition humaine déchue et de la sainteté de Dieu dans le prêtre, qui fait qu'il peut s'adresser aux deux sans qu'il y ait un danger. Il est entre deux mondes, on pourrait dire. Alors cet état particulier lui permet de représenter le peuple à Dieu, c'est cette flèche-là, et de représenter Dieu au peuple. Dans le Nouveau Testament, le rôle du prêtre monte en intensité. Et par conséquent, la mission du peuple de Dieu par rapport aux nations monte aussi en intensité. Je vais vous expliquer. Dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'on a toujours des prêtres ? Alors, si on est catholique, on va dire que oui. Mais moi, je vais vous dire oui pour une autre raison. Le livre des Hébreux nous dit « Nous avons un grand prêtre, Jésus-Christ ». Mais contrairement aux grands prêtres de l'ancienne alliance, Jésus ne fait pas que représenter l'homme à Dieu et Dieu aux hommes. Ce n'est pas juste une représentation. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Donc il ne fait pas juste une œuvre de représentation. Il contient en lui-même l'humanité et il contient en lui-même la présence de Dieu. Alors ça implique que notre rôle aussi, ça ne va pas être juste de représenter Dieu envers les nations, mais de contenir la présence de Dieu parmi les nations. Et c'est exactement ce que le Nouveau Testament nous dit, puisque le Nouveau Testament dit que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Donc nous ne sommes pas seulement prêtres, mais temple. Non seulement nous sommes intermédiaires de cette présence, mais nous la transportons avec nous. Maintenant, une autre différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être prêtre pour le monde, c'est que notre grand prêtre, contrairement au grand prêtre de l'Ancien Testament, est entré une fois pour toutes dans le sein des saints en offrant le sacrifice de sa propre vie. Hein, le grand prêtre, autrement, il devait chaque année, il entrait un tout petit moment, une fois par année, dans le sein des saints, en tremblant. Il y avait une clochette pour voir s'il était toujours vivant. Il y avait une corde pour pouvoir le tirer dehors si jamais il était frappé par Dieu. Et chaque année, il fallait recommencer. Jésus, lui, il est entré une fois pour toutes dans le sein des saints et il n'a pas offert le sacrifice d'un animal, il a offert le sacrifice de sa propre vie. Qu'est-ce que ça dit pour notre propre appel de prêtre pour le monde ? C'est qu'en tant que prêtre, à l'image de ce qu'a fait notre grand prêtre, nous sommes appelés à offrir à Dieu le sacrifice de notre propre vie, comme on le lit en Romains 12. Ce n'est pas à moins que cela que Dieu nous appelle, en effet, l'offrande d'une vie consacrée à Dieu. Quel privilège nous avons de porter cette présence en nous, et quel appel nous avons d'offrir pas seulement de la louange, pas seulement des actes, mais notre vie entière. Comment mettre ceci en pratique ? Ici, j'ai représenté le diagramme qui correspond à qu'est-ce que ça veut dire d'être prêtre de la présence de Dieu. Maintenant, la présence de Dieu parmi nous, c'est l'Esprit Saint. Et nous sommes prêtres pour l'humanité. J'avais hésité ici à mettre une image d'un évangélique endimanché avec du gel dans les cheveux. Mais après, je me suis dit que notre sœur Mère Teresa représentait un petit peu mieux ce que c'est que d'être prêtre pour le monde. Comment mettre ceci en pratique ? J'aimerais terminer ce prêche en vous donnant quelques exemples. En tant qu'intermédiaire de la présence de Dieu pour les gens qui sont autour de nous, nous pouvons être vecteurs de guérison physique. Une amie chinoise athée se fait très mal à la cheville, elle ne peut presque plus marcher. Priscille prie pour elle et elle est instantanément guérie. Sa réaction fut celle de la terreur face à l'action de Dieu. Le lendemain, toujours sans douleur, elle nous montre son pied qui est devenu tout bleu par l'hémorragie qui avait précédé la guérison. Elle s'était probablement déchiré les ligaments. En tant qu'intermédiaire de la présence de Dieu, nous pouvons être vecteurs de guérison intérieure. Une amie de Priscille, qui avait été enceinte d'un enfant avec un handicap grave, lui confie avoir vécu un avortement sous la pression des médecins et de sa famille. Elle ne fait depuis quelque temps que croiser des mères avec des enfants handicapés. Et elle vit une profonde tristesse intérieure. Elle a quelque part une foi qui lui reste de son enfance. Priscille l'a conduit dans une prière de repentance et à recevoir le pardon de Dieu. Je crois que on l'a plus. Moi, je ne l'ai plus revue depuis. Je me semble que Priscille non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne est devenue. Mais ce qu'on sait, c'est que par l'intermédiaire de Priscille, cette femme a pu recevoir le pardon et retrouver son appel de mère. En tant qu'intermédiaire de la présence de Dieu, nous pouvons être vecteurs de l'œuvre de salut que Dieu veut faire dans la vie des gens qui nous entourent. Lorsque j'ai terminé mon master de physique, j'avais un très beau diplôme avec des super notes que je pouvais montrer, mais dans mon intérieur, j'étais dans un état catastrophique. Alors je me suis mis en recherche. Et bien que mes a priori contre les chrétiens étaient pour le moins négatifs, j'ai été continuellement attiré par des personnes qui se sont avérées être chrétiennes. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que les vêtements du grand prêtre sont constitués de matériaux et de couleurs qui rappellent le tabernacle. Autrement dit, quand le grand prêtre s'avance vers le peuple, il fait penser à la présence de Dieu. Il y a quelque chose sur lui qui rayonne de la présence de Dieu. De même, en tant que chrétien, prêtre pour le monde, notre vie est appelée à être transformée de l'intérieur par l'Esprit Saint, de sorte que notre présence rappelle la présence de Dieu. Alors, je pourrais continuer encore longtemps à décrire ce que c'est que d'être prêtre de la présence de Dieu pour le monde. Mais ce qui importe le plus, c'est que nous nous ouvrions toujours plus à cette présence qui est en nous, l'Esprit Saint, et que nous puissions vivre cette consécration de prêtre. Nous sommes consacrés prêtres par Dieu. C'est l'Esprit qui va nous guider dans les actes sacerdotaux qu'il désire que nous fassions. C'est l'Esprit qui va nous transformer pour que nous ressemblions toujours plus à notre grand prêtre, Jésus-Christ. Alors, sommes-nous restés en Égypte ? Dieu, dans ce cas, nous appelle à traverser la mer pour être libérés. Sommes-nous restés sur les plages de la mer Rouge ? Dieu nous invite à venir au Sinaï, à sa rencontre. Dieu veut faire alliance avec nous. Dieu veut résider parmi nous. Et Dieu veut que nous rayonnions sa présence autour de nous.